Je suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain.
Nom de Zeus!
Le coup de foudre, c'est ça.
De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune.
À vos casques, prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Il s'en passe des choses en France, et l'une d'entre elles, c'est la fin des élections présidentielles. Ah, les élections! Une belle occasion pour le pays de se mettre soudain à fourmiller de rumeurs passionnées et inquiètes. Qui, parmi ces femmes et ces hommes amoureux de notre belle France, qui, parmi ces candidates et candidats dégorgeants de promesses comme des oranges bien mûres en plein été, nous comprend vraiment? Cette question nous préoccupe jour et nuit. Et à mesure que l'échéance approche, les conversations s'enflamment, les visages se tordent dans des rictus illuminés ou haineux jusqu'au soir fatidique. Le verdict tombe à la télévision, une partie de la France crie de joie, une autre crie de colère, une autre crie parce qu'elle a un orgasme et s'en contrefout de tout ça. Un candidat parade, les autres assument l'entière responsabilité de leur échec. Heureusement, en même temps, ça ferait moche de dire « c'est de la faute de ma concierge ». Et dans la nuit éclatent des émeutes. Alors, que retenir de tout ce vacarme ? Moi, dont la seule conviction politique forte est la ferme intention de défendre la culture et l'art au sens large, j'ai retenu quoi ? J'ai retenu 1. Que le premier mandat de Macron n'a pas l'air d'avoir dégoûté les gens, puisqu'une majorité l'a réélu. Et 2. Que l'idée de virer tous les vilains immigrés de chez nous a quand même l'air présente dans pas mal de têtes. C'est donc la leçon à retenir de ces élections 2022. La France penche à droite un petit peu plus tous les 5 ans. Et il va falloir mettre les bouchées doubles sur l'éducation de nos gosses pour leur expliquer que la différence du voisin est une beauté, pas une menace. Sinon, c'est l'heure de vous présenter le reste de l'équipe. Alors d'abord, il y avait Roma, notre chroniqueuse de mystère, qui va nous parler d'un polar labyrinthique. Pour l'instant, elle est en pause déjeuner, elle va nous rejoindre après. Ensuite, Brian, notre chroniqueur Globetrotter, tu vas nous emmener pas loin du Tibet, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Déjà, bonjour à tous. Et oui, je vous emmène dans un pays très peu connu qui s'appelle le Bhoutan.
Super, on a hâte de découvrir ce pays. Et quant à la réalisation, aujourd'hui, c'est Nicolas qui s'en occupe. Salut Nicolas.
Salut.
Merci d'être là.
Merci de me recevoir. Enfin, non, de me recevoir, je ne suis pas l'invité, mais merci de me permettre de vous rencontrer et puis de réaliser des émissions de jour.
Ben avec grand plaisir. C'est vrai que tu es plutôt un oiseau de nuit. Ça va, ça t'aveugle pas trop le soleil ?
J'ai des cloques, mais ça devrait aller. J'ai amené ma biafine.
Il est un peu vampire hein, sur les bords. Et aujourd'hui, dans Coup de Foudre, nous recevons Franck Gérard, artiste photographe. T'as vu, j'ai mis artiste, j'y ai pensé. Salut Franck, bienvenue dans l'émission.
Bonjour à tous. Artiste ?
Ouais, parce qu'on a.
Artiste auteur, oui, c'est vrai, artiste.
Quand je t'avais interviewé il y a 2 ans, pourquoi je disais pas. Photographe et tu m'avais dit quand même, tu te sens plus artiste photographe.
Bah aujourd'hui, j'ai changé.
C'est vrai ? On va en parler. Pour te présenter en 2 mots, tu as obtenu donc ton DNSEP aux Beaux-Arts de Nantes en 1997 et puis suite à un événement grave dans ta vie, en 1999, tu t'es lancé avec passion dans la photographie, avec un amour particulier pour les images de la rue, proche des gens. En 23 ans de métier, tu as participé à une trentaine d'expos et fait une dizaine de résidences, donc a priori on va avoir de quoi parler pendant cette interview. Mais avant d'entamer les babillages radiophoniques, je te propose un tac au tac supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prêt ?
Le piège. J'étais pas au courant.
C'est vrai ? Ah bah tant mieux, c'est parfait. J'adore prendre les invités au dépourvu. Alors, vitesse ou lenteur ?
Lenteur.
Sucré ou salé ?
Salé.
Argentique ou numérique ?
Les deux.
Vote ou abstention ?
Les deux.
Ok. Ville ou campagne ? Dis pas les deux parce que...
le désert.
D'accord. Pessoa ou Fante ?
C'est dur ça, Pessoa.
C'est fait pour être dur. Thé ou café ?
café.
Ça, je savais. Penser ou vivre ?
Vivre.
La plupart des gens n'arrivent pas à répondre à celle-ci. Chat ou chien ?
Chat.
Je savais. Ténèbres ou lumière ?
Lumière.
Organisé ou bordélique ?
Bordélique.
Passé ou futur ?
Présent.
Ok, ok, excellente réponse. Ben on va passer à l'interview proprement dite. Comme d'habitude dans cette émission, c'est une tradition, on n'a pas de jingle pour l'interview, donc on le fait tous ensemble à la bouche. Voilà. Alors ça donne un petit espèce de petit capharnaüm pendant 5 secondes, en général c'est magnifique. 1, 2, 3. Oh, il était long aujourd'hui. Alors, Franck Gérard, donc interviewé sur Prune. Alors, première question pour toi. En général, quand on raconte une histoire, on commence par le début et on termine par la chute. Et toi, tu as fait l'inverse, parce que tu as commencé ta carrière de photographe par une chute en 1999. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ?
C'est une anecdote, mais je suis tombé à environ 300 mètres d'ici, puisque c'était rue Adolphe Moitié, à Nantes, de 3 étages par accident. Voilà. J'ai passé ensuite plus d'un mois à l'hôpital, et lorsque je suis sorti, j'ai pu remarcher, après que les scanners, qui m'aient scanné le corps, et tout se passait bien. Je suis allé en haut de Talensac, il y avait une boutique photo. J'ai acheté un appareil photo et j'ai décidé que je m'en séparais plus jamais.
D'accord.
C'est tout simple, donc voilà.
Et est-ce que tu penses que sans cet accident, sans ce rappel un peu brutal de ta mortalité, tu n'aurais peut-être pas entamé ce métier avec autant d'envie ? Est-ce que tu aurais pu faire autre chose, peut-être ?
Je ne sais pas, parce que depuis très longtemps, je voulais faire ça, être artiste depuis l'âge de 7 ans environ. Et évidemment, sans être déterministe... Je pense que ça a déterminé toute ma vie, cet accident. Et je dis toujours la même chose. La mort m'a sauvé la vie. Si j'avais pas eu cet accident, ça se trouve, je serais...
C'était la question.
Dans un boulot que je n'aime pas, parce que j'ai pas envie d'insulter les gens qui font des travaux qu'ils n'aiment pas, mais ça arrive trop régulièrement, à mon avis.
Ça peut arriver, on en croise, oui, dans la vie, de temps en temps. Et quand tu remontes aux origines de ta passion pour l'image, tu cites aussi ton grand-père, Pierre Gérard.
Tout à fait.
En quoi est-ce qu'il a influencé ta trajectoire de vie ?
Ben, c'est très simple. Pour moi, c'est lui qui m'a appris à regarder le monde. C'est-à-dire, on ne faisait pas du tout de photos, il n'écoutait pas de musique, rien. Mais en fait, je marchais beaucoup avec lui et il me montrait les choses. Mais en fait, évidemment, comme j'étais très jeune, j'étais enfant, j'en avais aucune conscience. Et du coup, il avait je l'appelais œil de lynx, un peu son nom d'indien. Et donc, il regardait, par exemple, il y avait des champignons à 50 mètres dans des feuilles mortes, des champignons, la couleur des feuilles mortes. Lui, il voyait, et il me disait, tiens, regarde, il y a des champignons, là, des cèpes,
c'est bon, les
des trompettes de la mort, des girolles. Moi, j'étais là, mais je voyais rien. Puis au fur et à mesure, finalement, j'ai commencé à voir comme lui. Donc simplement, il m'a appris à voir, à regarder.
Une acuité de...
Tout à fait.
De regard. Surtout que les champignons, c'est quand même mieux quand on les trouve dans les bois, comme ça. Vraiment, les morilles, on vient de voir des morilles à 176 euros le kilo. C'est vrai que quand on trouve une sous une feuille, comme ça, qui s'offre à la main, c'est plus chouette.
Ça pousse au bord des routes, en général. Ça pousse pas dans les forêts.
D'accord.
Il me semble.
Je suis très peu connaisseur, c'est vrai.
J'en ai déjà vu, c'était toujours au bord de la route.
D'accord. Mais en tout cas, oui, d'accord, qu'il a développé cette acuité de regard, l'envie de regarder le monde, quoi, plus intensément.
Tout à fait.
On va arriver tout de suite à ton grand projet, j'ai mis des guillemets, mais c'est un peu ça, c'est quand même le projet de ta vie, hein. Ça s'appelle En l'état, 13 juillet 1999, aujourd'hui, je crois savoir que tu l'as tatoué d'ailleurs sur le torse, tu ne t'en caches pas.
Non.
Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, présenter un petit peu ta démarche artistique ?
Oui.
Grosse question.
Oui, ouais, non, c'est très simple, c'est simplement que justement j'ai choisi de m'ouvrir au monde d'une façon très simple, c'est-à-dire dans un monde où aujourd'hui beaucoup d'images, notamment les images de publicité, etc., sont des images fabriquées, du moins retouchées. Moi, je me suis dit que le réel, tout ce qu'il y avait autour de moi était tellement fou, quoi, était tellement énorme, qu'il suffisait de le photographier, de le regarder. Je n'ai pas besoin d'intervenir dessus, d'aller plus loin que ça. En fait. Donc j'ai choisi le réel, entre guillemets, parce que j'ai toujours considéré que la fiction à une limite, c'est-à-dire à l'esprit humain, c'est-à-dire à un roman, hein, alors que le réel, c'est l'univers.
Oui, il n'a pas de limite.
Et encore l'univers qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle l'univers observable, et donc on ne sait pas ce qu'il y a après. Mmh. Et donc c'est complètement hallucinant en fait. Donc voilà, ma posture, c'est d'avoir mon appareil tous les jours, de photographier ce qui me touche. Ça peut être un paysage, ça peut être une scène qui me fait rire. Il y a beaucoup d'humour, aussi l'humour. Je trouve que l'humour, il n'y a pas assez d'humour dans l'art aujourd'hui. Ouais. Ou dans le...
On en reparle.
Moi, j'aime rire. J'ai pas l'air rigolo là, mais je suis un peu stressé.
On va reparler de l'humour dans l'art juste
voilà.
Après.
Oui.
Et d'ailleurs, tu as sorti donc en 2020 un livre qui porte ce nom, donc En l'état, aux éditions Locaux. Un beau bébé hein, de 428 pages qu'on a en studio. D'ailleurs, je pourrais le faire tourner après puisque tu me l'avais gentiment offert. Ce livre, tu me disais, c'est un tout petit fragment de ton travail en fait.
Bah évidemment, 23 ans avec l'appareil photo sur soi. Même si, étrangement, en ce moment, je fais presque plus de photos.
Tu fais moins d'images, ouais, d'accord.
Bah, beaucoup, j'ai voyagé, j'ai tellement voyagé ces temps-ci, j'ai fait des dizaines de milliers d'images, donc je pense que c'est... Je sais pas, j'ai moins faim.
Oui, il y a peut-être une forme d'overdose parfois dans le...
Non, c'est peut-être que je regarde moins, je me recentre un peu.
D'accord. Donc de temps en temps, ça donne un sentiment d'éparpillement, c'est-à-dire que tu es sans cesse attentif au monde et pas forcément assez attentif à toi-même, du coup.
Forcément.
C'est ça que tu dis.
Forcément.
D'accord.
Parce que lorsqu'on est ouvert au monde, lorsqu'on regarde autour de soi vraiment, qu'on est dans l'ouverture totale, on est obligé de s'oublier. Mmh. Même voilà. D'oublier son corps, en fait, c'est un truc assez...
Tu n'es plus qu'un œil, en fait.
C'est pratiquement ça. D'ailleurs, je privilégie toujours le regard. Mmh. J'ai toujours dit, j'adore la musique, hein, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, mais si la musique n'existait pas, ça va choquer les gens de près, je le sens. Si la musique n'existait pas, ça me dérangerait pas du tout.
Oh, la bombe est lâchée. Auditrice, auditeur, accrochez-vous à vos sièges.
Donc, j'adore la musique. Mais je ne suis qu'un œil.
Non, je comprends, c'est assez intéressant et j'aime ce point de vue assumé en soi. C'est-à-dire que toi, c'est le regard, c'est l'image qui t'intéresse le plus. Ouais. Tu as fait aussi de nombreuses résidences photographiques à Poitiers, domaine de Kerguéhennec, d'ailleurs que j'ai aussi amené le livre, j'ai pensé à tout ce matin, c'est merveilleux. À Los Angeles, au Havre, est-ce qu'il y a quelque chose qui relie un peu chacun de ces séjours, un fil rouge que tu déroules dans tes images?
En fait, j'ai été invité... plus souvent pour deux choses, la photographie de rue et le paysage. Voilà, c'est vraiment mes deux, pour des portraits aussi, mais c'est essentiellement le paysage et la photo de rue, voilà.
D'accord. Donc par exemple, le domaine de Kerguéhennec dont je parlais là, c'est un travail sur la lumière beaucoup, parce que j'ai vu dans le livre, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de choses suggérées dans la nature. Tu travailles sur l'obscurité en fait.
Parce que là, on est dans un cadre où il y a la forêt. Il y a beaucoup de forêt, donc la forêt, évidemment, au niveau des lumières. Oui, alors il y a aussi, c'est au niveau des saisons aussi, parce qu'il y a du brouillard. J'ai fait aussi des photos de nuit, ça faisait longtemps. Et donc j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de texte, d'auteur, de critique. Il y a juste des titres.
D'accord.
Voilà, comme j'ai oublié, mais...
C'est quelque chose qui te plaît, ça, quand il y a comment dire, quelque chose qui te contre un peu, c'est la nature qui travaille, entre guillemets, contre toi, puisque le brouillard, la nuit, la poussière, tout ça, ça obscurcit, ça empêche de voir. Ça te plaît de travailler justement contre les éléments, c'est-à-dire que tu n'as pas une lumière optimale, tu n'as pas tu vois, le ciel bleu, c'est quelque chose que tu apprécies ou pas?
Bah, évidemment, mais de toute façon, il y a toujours la lumière. C'est la base de la vie, c'est la base de la photographie. C'est comme, je voulais finir tout à l'heure, sur l'image, tout est image. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute un morceau, je produis des images. Quand je lis un bouquin, je produis des images. Enfin, comme tout le monde, je pense, mais tout... Je ne sais pas si c'est décuplé chez moi, je ne le pense pas, mais l'imagerie, mon imagerie intérieure est complètement folle. Ça, je me fais n'importe quel morceau, même s'il n'y a pas de clip, de film lié au morceau, je me fabrique ce...
C'est le contraire de la fantaisie, en fait. Je sais pas si tu connais la fantaisie. C'est l'impossibilité de se représenter des images mentalement.
Ouais.
T'as une hyper-fantaisie, toi, un petit peu.
Peut-être.
Je sais pas, j'ai pas été testé.
J'ai pas fait le test.
Bon, on va faire une petite pause musicale. Tu nous as choisi un morceau de Ghostman feat. Parvo qui s'appelle To Whom It May Concern. C'est un artiste que tu apprécies, que tu écoutes en ce moment qui...
J'écoute pas forcément son, j'écoute de temps en temps. Tout ça, c'est grâce à mes fils. En fait, j'aurais jamais eu accès à ça. Si j'avais pas mes enfants qui me donnaient leur musique, c'est assez intéressant.
D'accord, voilà. C'est chouette. Bon, on s'écoute ça tout de suite. Il est 13h18 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Aujourd'hui, on reçoit Franck Gérard, artiste photographe, et on parle un petit peu de sa vie, de son parcours, de sa carrière, de sa trajectoire. Voilà, je suis à court d'adjectifs. De noms, c'est pas des adjectifs du tout. Franck, on va reprendre avec une de tes résidences la plus récente, qui était donc dans la ville de Marfa, au Texas, il y a quelques mois.
La plus récente, en fait, c'est celle que j'ai faite au mois d'avril à La Défense à Paris.
Oups. Bon, alors avec l'une de tes plus récentes.
L'avant-dernière, on va dire.
Intervieweur gêné. Non. Dans la ville donc, de Marfa, au Texas, il y a quelques mois. Je te connais assez fasciné par les États-Unis, notamment leur paysage. C'était comment la vie là-bas, en plein désert?
La vie?
Oui.
J'étais seul dans un mobile home. En face d'une montagne, The Haystack Mountain, j'ai vu la Voie Lactée pour la première fois de ma vie. C'est le désert. Après, j'ai rencontré des gens. Il s'est passé énormément de choses. Il suffisait de me suivre sur les réseaux sociaux.
Ce que j'ai fait.
Où je racontais parce que j'écrivais tous les jours et je photographiais tous les jours. Donc, c'était fantastique.
Mmh. Tu t'es promené pas mal autour aussi de...
J'ai beaucoup marché, mais j'ai aussi beaucoup pris la voiture, évidemment, puisqu'on est dans le désert, il n'y a pas d'autre
alternative.
Non, on peut pas... La problématique, c'est qu'on ne peut pas se promener partout, puisqu'on est au Texas. Et la propriété privée est vraiment, vraiment sacrée. Ça doit être l'état où c'est le plus sacré. Donc, si vous avez des barbelés, vous ne les passez pas. Et donc, comme les montagnes sont toutes privatisées, on ne peut pas aller sur les montagnes. Il n'y a que The Big Bend National Park, qui est au sud de cette région du Texas, où on peut aller parce que c'est un parc national. Mais le reste, on ne peut pas y aller. Et si on y va, on risque gros.
De se faire abattre comme un chien dans le désert.
Exactement. D'accord. Et en plus, on sera en tort.
D'accord.
S'agissant des États-Unis, je parlerai plutôt de se faire abattre comme un Mexicain dans le désert.
Oh là là.
Surtout dans cette région.
L'émission devient polémique.
C'est proche de la frontière.
C'est pas polémique. On est au sud des États-Unis. On est près de la frontière avec le Mexique.
Ouais, ouais. On est tout à fait. On est au sud-ouest. Et il y a les Borders. D'ailleurs, à Marfa, il y a les Borders Patrol. Il y a une grosse station, enfin, un gros complexe.
D'accord, donc ils privatisent les montagnes, c'est étonnant. Ils ne s'entendraient pas avec les Écossais, ces gens-là. Les Écossais, tout est ouvert, tu peux te promener où tu veux.
En France aussi, ça va. Hein.
Bah, oui.
On peut aller quand il y a des barbelés, dans des champs, on y va, il y a des vaches, et puis on ne risque pas grand-chose à part de se faire attaquer par un taureau, éventuellement. Mais
oui.
Je ne vois pas le paysan du coin sortir avec son flingue. Alors que là-bas, ils sont tous armés, pratiquement tous, donc c'est...
Mais pour un galopeur comme toi, c'est pas gênant, ça, parce que je me rappelle quand j'étais allé venir te voir au Calanque, non, à Marseille, pendant ta résidence, au Calanque, tu galopais toute la journée quand même, c'était assez...
Mais non, parce qu'on peut marcher, parce qu'il y a des routes, des rues, donc on marche au bord des routes, et puis en plus les routes sont complètement vides, les routes dans le désert, il y a à part les grandes, la 90, l'Interstate 90 ou la 67... Qui passe au milieu de Marfa, les autres routes, il y a plein d'autres routes. Enfin, très peu en même temps, on est dans le désert, mais on peut les prendre.
D'accord.
Il y aura une voiture par heure, ou encore s'il y en a une.
Oui, ça doit être lunaire comme endroit. Un autre souvenir qui semble d'ailleurs t'avoir marqué pendant ce séjour, c'est les quelques heures que tu as passées dans les Badlands. J'avais lu ton journal de bord en ligne, et tu semblais complètement halluciné par ce lieu.
Parce que je me suis retrouvé dans les Badlands, c'est situé par contre dans le Dakota du Sud. Donc c'est pas du tout... Là, il faisait moins 20 degrés, alors que quand j'étais au Texas, il faisait entre, je sais pas, 15 et 25. Sauf la nuit, évidemment, puisqu'on est dans le désert. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Normalement, les accès aux parcs nationaux sont payants. Et là, il faisait tellement froid, il y avait tellement personne qu'ils avaient laissé les barrières devant les cahutes. Donc c'est normalement c'était $30 et là c'était zéro. Donc je suis passé, je me suis arrêté et c'est un ami qui me conduisait. Donc il m'a dit sors, on va voir le paysage. Et là j'ai eu ce que je pense être le syndrome de Stendhal, autrement appelé le syndrome de Florence. J'ai fait une crise de panique attaque. J'ai eu des hallucinations, des taches rouges sur les côtés. J'ai pleuré, j'ai suffoqué, j'ai eu le cœur qui allait à, je sais pas, 150, je sais pas. Et j'ai eu une peur. C'est parce que le cerveau ne supporte pas autant de beauté. Ça arrive dans les musées notamment, ou devant des œuvres d'art, mais là ça m'est arrivé devant un paysage.
Oui, je comprends, mais il y a un extrait comme ça dans Proust. Il parle du petit pan de mur jaune. Il s'arrête devant le tableau et il fait une crise cardiaque devant le tableau, tellement c'est beau. D'accord. Donc c'est ce paysage qui c'était trop, quoi.
C'est ça, en fait. C'était trop beau. D'accord. Mais en plus, c'était recouvert de neige. Et c'était extrêmement graphique. J'ai jamais eu ça.
D'accord.
Je sais pas, les photos sont à disposition.
Oui, je les ai vues. C'est complètement incroyable.
Quelque part dans le... En dessous, là, quand on va sur Insta ou ailleurs.
Oui. Après, voilà, justement, j'ai la photo, mais c'est toujours ce paradoxe, c'est que j'ai pas eu cette espèce de que t'as prise.
La photo n'est rien à côté du réel, encore une fois. Et en fait, là, on n'a pas l'échelle. Le parc, il fait presque 1000 km². Donc, c'est quand même énorme. Et c'est d'une beauté à coup. Couper le souffle. Et en plus, lorsqu'on est seul au monde, devant les Badlands, le mauvais pays.
Oui, c'est vrai que c'est un drôle de nom en plus.
Ouais, c'est un sacré nom. Mais on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que c'est invivable.
C'est trop beau.
Excellent, sans doute parce que c'est trop beau, exactement.
Et comment fait un artiste comme toi qui justement qui va dans la rue, qui marche, qui regarde la vie et qui documente la vie, parce que tu m'avais parlé de ça aussi, c'est une forme, façon de documenter ton époque finalement. Comment tu t'y retrouves justement dans un monde de Photoshop, de photos hyper trafiquées partout, tout le temps?
Je m'y retrouve parce que j'aime l'image. Ça veut pas dire qu'une image, lorsqu'elle est retouchée, ça me dérange pas. Sauf que c'est pas du tout ce que j'ai choisi. Moi, je trouve que donc, comme je me répète, mais que le réel est assez riche. Il y a tellement de richesses autour de soi, même là, dans le studio, même si on regarde par la fenêtre. Il y a tellement de choses qui se passent. Un nuage, un oiseau, je dis, c'est toujours la même. Je ne change pas. C'est toujours la même chose, c'est fou.
Mmh. Tu m'avais dit que tu marchais des fois en sortant de ta maison et tu regardais autour de toi comme si tu étais en Chine.
C'est toujours cette histoire, c'est faut essayer d'être ailleurs lorsqu'on est chez soi, de regarder que ce soit quelque chose d'exotique finalement, parce que c'est l'habitude des lieux. Si on fait toujours les mêmes trajets, on va au travail, on va à l'école, etc., ou l'université, puisque... On a des étudiants qui nous écoutent. Il y a un moment, on ne regarde plus. La première fois, c'est nouveau. La deuxième fois, la troisième fois, on ne s'étonne plus. Et après, c'est fini. On est à l'intérieur de soi ou sur son téléphone portable. C'est simple. Donc, on ne regarde plus autour de soi. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder. Bon, après, je suis comme tout le monde. Hein. Il m'arrive de ne pas regarder. Donc, voilà, c'est s'étonner comme dans l'enfance. Mmh.
Mais je comprends.
C'est rester enfant, en fait. C'est rester, avoir cette ouverture au monde.
D'accord, c'est l'émerveillement de...
L'émerveillement.
D'un enfant devant le monde.
J'essaie.
Mmh. Ok, ouais, ça me parle. Évidemment. Tu m'as souvent aussi parlé, on en parlait tout à l'heure, de l'importance très grande de l'humour pour toi, qui est une autre facette de ton travail.
Oui.
Si vous trouvez en l'état justement le livre aux éditions locaux, vous verrez, il y a beaucoup de photos très drôles. La vie est drôle, en fait, c'est burlesque. La rue. Est-ce que tu trouves que la photographie contemporaine se prend trop au sérieux? Bam. Allez.
Non. Non, tu pas forcément. Hein, pas... Non, c'est pas qu'elle se prend trop au sérieux. C'est que moi, j'ai fait ce choix de l'humour. Mais en même temps, si on regarde un tant soit peu mes photos, si on s'applique à aller au-delà de la première impression qu'on peut avoir en les regardant, on peut voir que quand même, il y a aussi une certaine critique de la société. C'est-à-dire que l'humour est un peu acide, quoi. C'est un peu de l'humour anglais, c'est un peu de l'humour... je veux dire, le panneau déviation que tu nous montrais tout à l'heure, là, c'est il y a quelqu'un qui a posé un panneau déviation, enfin des ouvriers, et il est en direction d'une entrée de cimetière.
Oui.
Donc c'est très marrant, mais en même temps, ça parle de la mort. Et moi, j'aime rire de la mort, par exemple. Pas que de ça, de plein de choses, mais...
Je comprends bien, on a reçu à la troisième émission, je crois, une amie rennaise, une artiste qui s'appelle Adèle Ancior, qui est photographe aussi, et justement, elle adore les cimetières. Moi, je trouve ça
moi
fascinant.
Aussi.
Tu vois, elle trouve ça
fascinant.
Très beau. Elle s'y promène.
Au Texas, j'étais dans une ville à moitié fantôme, quoi, qui s'appelle Shafter, qui est entre Presidio et Marfa, donc je sais pas, à 30 km de la frontière, il y a un cimetière... Mais avec des cactus, des pierres, c'est complètement extraordinaire, c'est fascinant. Quand on voit les cimetières en Angleterre, ou le cimetière Saint-Pierre à Marseille, c'est toujours très beau. Il y a toujours que moi j'aime bien regarder les dates des gens, de calculer la vie des gens, c'est horrible.
Ah, mais je comprends, il y a toutes ces vies qui étaient là, et
qu'on
ignore complètement.
C'est-à-dire qu'en fait, en regardant la mort, je pense à la vie. C'est la vie, en fait.
Forcément, ça se mord la queue. Aïe, ça fait mal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour toi ces prochains mois, comme exposition, résidence, projet
Alors, une exposition, le vernissage, c'est le 22 juin sur le parvis de la Défense.
D'accord.
Voilà, j'ai un autre bouquin en projet sur les Calanques, ma résidence dans les Calanques, ce que j'écrivais aussi. J'ai quelques autres... petit truc, mais j'ai envie de rester un peu dans le coin.
Mmh. La résidence qui était prévue en Chine, non?
J'avais une résidence en Chine, mais c'était prévu en mars et avril 2020.
Mmh. Oui. Et puis,
pour
du
que
coup,
tout le monde n'a pas oublié cette date, ces dates-là, ces deux mois-là. Mm-hmm. Et donc, quand on voit la situation en Chine,
oui.
c'est complètement impossible.
C'est très compliqué.
Enfin, sauf si je veux rester deux mois dans un hôtel,
oui.
enfermé dans un hôtel, mais non.
Je comprends.
Marcher dans une chambre de 10 mètres carrés toute la journée, non.
À un moment, ça va être difficile de s'émerveiller devant le papier peint. Quoi.
Ou devant la fenêtre.
Oui.
À un moment, au bout de deux mois, je pense.
Ce serait compliqué, je comprends. Même pour toi. Super, bah écoute, tu disais donc 22 juin à la Défense, c'est ça. Et puis, merci Franck Gérard d'être venu nous voir.
Merci pour l'invitation.
C'était un grand plaisir. Et puis, il y a une autre interview d'ailleurs que j'avais déjà faite de Franck en 2020, je le disais il y a deux ans. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie, si vous voulez aller écouter. On a parlé d'autres choses. En attendant, on fait une pause musicale avec un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur YouTube. C'est The Other Favorites. Bon, j'aime pas trop leur nom, mais par contre, leur musique est incroyable. La chanson s'appelle Blade Away. C'est tout de suite sur Prune.
She carved a pear with a knife. She didn't point the blade away. I didn't want to patronize. She cut herself anyway. She sang Amazing Grace. She didn't know all. Said, I hope you'll never die, so I don't have to learn that verse. Ever the diplomat, I said, let's hope it doesn't come to that now. Temporary as the night, and leaving like a slow kettle wine. I knew I can't count on my. Can I count on you? She put the news on TV, but she turned the volume down. She said, I think I ought to see, but I can't stand the sound. Almost an afterthought, I just held her as we watched. Temporary as the night, and leaving like a slow kettle wine. I knew I can't count on much your eye. Can I count on you? Temporary as the night, and leaving like a slow kettle wine. I knew I can't count on much a ride. Can I count on you?
Tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, la chronique polar de Roma.
S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Coup de foudre pour une nouvelle chronique polar. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les énigmes et les mystères, et aujourd'hui je vais vous parler du roman « Il était deux fois » de Franck Tilliez. Gabriel Moscato, inspecteur de police, cherche sa fille Julie, 17 ans, disparue en montagne il y a un mois, non loin de la ville de Sagas. L'homme arrive à l'hôtel de la Falaise, le seul de la ville, pour interroger le directeur et consulter les registres. Ce dernier lui confie les clés de la chambre 29, où, après quelques heures de travail, Gabriel finit par s'endormir. En pleine nuit, il se réveille à cause d'un vacarme. Dehors, des étourneaux morts tombent du ciel et s'écrasent sur le sol par dizaines. Il est stupéfait, mais épuisé, se rendort. Le lendemain, tout a changé. Il se réveille dans la chambre 7, son visage a vieilli et il découvre effrayé que 12 ans se sont écoulés depuis la veille et que sa fille n'a toujours pas été retrouvée. On apprend vite que Gabriel a subi un choc violent qui aurait causé un trou de mémoire très important. Il faut alors qu'il recompose ses souvenirs perdus car en 12 ans, beaucoup de choses ont changé. Son collègue et ami Paul est désormais en couple avec sa femme et Gabriel n'habite plus à Sagas mais dans le nord de la France, à Lille. Il est déboussolé, mais son but reste inchangé. Il souhaite retrouver sa fille à tout prix. Et cela va s'avérer plus difficile que prévu car l'affaire a été classée depuis plusieurs années. C'est le premier roman de Franck Tilliez que je lis. Cet auteur m'a été conseillé par une collègue de travail et je l'en remercie. C'est un polar qui, dès le début, nous embarque. Le personnage principal est désespéré et débarque dans une réalité où chaque événement, chaque souvenir oublié est un frein à son enquête. Il doit faire cavalier seul et aussi regagner la confiance de ses proches pour avancer. On s'identifie facilement au personnage et on a vraiment envie de le soutenir. Aussi, les circonstances de la disparition de sa fille sont bien plus complexes qu'on ne le pense. L'auteur nous transporte dans une intrigue vertigineuse aux allures de poupées russes imbriquées les unes dans les autres. On peut se sentir parfois un peu perdu, mais l'histoire est tellement captivante que l'on a envie de continuer de lire. Pour finir, le coup de maître à la fin du livre est de nous annoncer que les dernières réponses à nos questions se révèlent être dans un autre de ses romans, le manuscrit inachevé, qui nous propose apparemment une relecture complète de l'histoire. C'est là un véritable coup de génie, je trouve. Je vous invite donc à lire l'un et l'autre de ses romans, en espérant que vous les apprécierez autant que je les ai appréciés. C'était la chronique de Roma dans Coup de foudre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à dans un mois pour l'ultime édition de la saison.
Il t'a clairement plus que le Harlan Coben, on est d'accord?
Oui, absolument.
Il t'a captivé celui-là.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu as choisi comme musique?
J'ai choisi Hey Laura de Gregory Porter parce que j'avais acheté l'album il y a une dizaine d'années, je crois. Je travaillais en saison sur l'île de Noirmoutier et... J'ai beaucoup, beaucoup écouté cet album et c'est vrai que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà.
Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me.
sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me all night long. I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. And oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me.
Il est 13h41, vous êtes dans l'émission Coup de foudre sur Prune. Et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou.
Alors, quand on dit l'actualité, c'est l'actualité de nos vies, hein, qui sont remplies d'actualité. Et oui, voilà, la rubrique Truc de fou dans Coup de foot, c'est l'occasion un petit peu de partager des expériences qu'on a eues récemment dans nos vies, ces dernières semaines, ces derniers mois, des événements un peu marquants, beaux, je sais pas, touchants, un truc qui reste, quoi. Et Franck, tu avais envie de partager avec nous une rencontre à Paris, quelque chose qui t'a touché.
Oui. Même si pour moi, c'est pas l'heure de la rubrique truc de fou, c'est l'heure de la sieste. Bref.
C'est noté.
J'étais en résidence à La Défense, à Paris, enfin, à côté de Paris, puisque c'est Nanterre, Puteaux et Courbevoie, je crois, à la fois. Et en fait, il faut savoir qu'il y a plein de strates. C'est-à-dire, la route passe dessous, il y a les gratte-ciels, donc c'est complètement incroyable. Et surtout, il y a des strates sociales. Donc on a beaucoup de SDF qui vivent dessous. Et j'ai rencontré une personne qui parle à un photographe qui a une chambre photographique. Et pas une chambre à coucher, hein, parce qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas la photo. C'était facile. Mais, le type était à moitié SDF. Et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé avec... des gens extrêmement connus, qui a fait des couvertures de magazines connus dans les années 90 et début 2000. Mais voilà, un jour, sa maison, enfin son appart, je crois, c'est plutôt à brûler. Donc il a tout perdu, tout son matériel, mais surtout toutes ses photos, toutes ses pellicules, tous ses diapos. Et il a arrêté. Et donc, c'est ça. C'est une histoire un peu triste, mais très triste. Ça pourrait arriver à tous les photographes.
L'histoire, c'est que tu l'as rencontré, en fait.
L'histoire, c'est que je l'ai rencontré. J'ai énormément discuté avec lui de photos. C'était un passionné et tout. Et c'était un type énorme, quoi. Génial, qui est resté positif.
Et tu disais que maintenant, il est sans domicile fixe, c'est ça ?
Je sais pas vraiment, mais vu son état, si je puis dire.
Il avait l'air, en tout cas...
Il n'a pas l'air d'être très riche, quoi.
Enfin, fatigué, pas dans une bonne période de sa vie.
Non, ouais. Avec quand même la 8-6 toujours à la main.
Ouais, je comprends.
24 sur 24, quoi, presque. Ouais. Je sais pas, mais...
Ok. Donc oui, et ça forcément, toi, en tant que photographe, ça te...
Voilà.
Ça t'a parlé, je comprends.
Voilà.
Ça marche. Romain, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous ?
Alors, nous sommes sur un tout autre registre. Je préviens, on bascule vraiment d'atmosphère
vie, hein.
Et d'ambiance.
Bien sûr.
Ma vie a été assez rigolote hein, ces derniers jours. Je me suis rendue à La Rochelle pour le travail. Je travaille en bijouterie. Et on a été à une réunion de tous les magasins, du magasin de bijoux dans lequel je travaille, où tous les employés se rencontrent. Et ce qui était très amusant, c'est qu'il s'est passé deux choses assez rigolotes ce soir-là. La première, c'est que j'ai participé à un quiz des années 80 et j'ai gagné la troisième place. J'ai gagné une bouteille de rosé qui est excellent.
Il n'est pas dégueu, hein.
Voilà, en répondant.
Franchement, il n'est pas dégueu pour
en
moi.
En répondant à une question très amusante, c'est de quel visage de personnage connu le personnage d'E.T. a été-t-il inspiré ? Et je ne le savais pas. Quelqu'un. J'ai répondu absolument par hasard.
Peut-être Spielberg ?
Non, c'est Albert Einstein.
C'est Spielberg qui a réalisé E.T.
Oui, justement, pour ça. C'est pour ça que justement, pourquoi pas Spielberg, vu que c'est lui qui a réalisé le film. Pourquoi il s'est pas fait une satire de lui-même ou...
Tout à fait.
Ouais.
Pourquoi pas.
D'ailleurs, c'était peut-être même dans le choix multiple. C'était une histoire de QCM. Il y avait un choix multiple. Sinon, j'aurais clairement jamais trouvé. Mais une histoire de hasard a fait que j'ai emporté cette bouteille de
rosé. Donc Einstein, E.T., bouteille de rosé.
Exactement. Et la dernière anecdote, c'est que. Mon patron a dansé toute la soirée et du coup tous les employés ont aujourd'hui une vidéo de leur patron en train de danser ce que je trouve très très amusant et c'était le dernier à rester sur la piste de danse à 1h45 du matin. Voilà, bravo à lui.
Comme quoi les patrons sont bien humains.
Tout à fait, tout à fait. Donc les patrons dansent en fait, voilà. Maintenant on le sait.
Ils s'amusent même, ça n'est pas...
Oui. Les patrons sont bien humains, ça fait très slogan de syndicat de type MEDEF. Ou...
Leur vie valent plus que tous nos profits. Mais,
MEDEF 44, les patrons, parce que les patrons sont bien humains.
Ça, j'avoue, ça sonne bien en fait. J'aime bien. On va peut-être déposer un truc. Nicolas, toi, pour finir cette rubrique aujourd'hui, Autant Couleur, tu veux nous parler de quoi ?
Moi, je veux vous parler télévision. Je veux vous parler d'une série qui s'appelle Serviteurs du peuple. Est-ce que ça parle à quelqu'un autour de la table ?
Absolument pas.
Pas du tout.
C'est parfait.
Rien à voir avec les 2 minutes du peuple de...
Non, ça aurait même pas pu. C'est dans un tout autre registre. C'est une satire politique qui a extrêmement gagné en popularité depuis quelques mois pour la simple et bonne raison que l'acteur, le rôle principal... Alors, je vais vous pitcher l'histoire. D'abord, c'est un prof d'histoire qui, par un concours de circonstances un peu hasardeux, se retrouve propulsé président de l'Ukraine. Ça se passe donc en Ukraine, vous l'aurez compris. Et le rôle principal est interprété par un certain Volodymyr Zelensky, qui est aujourd'hui président de l'Ukraine, mais qui, au départ, est un acteur. Bon, il a une formation de juriste, mais il est avant tout comédien. Il a rempli qui est connu depuis une vingtaine d'années là-bas. Il a remporté, entre autres, l'édition ukrainienne de Danse avec les stars en 2006. Il est très connu pour parodier à la quasi-perfection Lady Gaga et Madonna. Et par... Oh, pardon, mon genou cogne sur le clavier.
Quand on dit Lady Gaga, on doit cogner quelque chose. C'est là.
Et en 2015, donc, est diffusée la série Serviteurs du peuple, dans laquelle un prof d'histoire se retrouve propulsé président de l'Ukraine un peu par hasard. À tel point où, dans le premier épisode, le Premier ministre se pointe chez le personnage interprété par Zelensky, qui habite encore chez ses parents, et lui dit « Bonjour, monsieur le président ». Et je fais très très vite. Dans le premier épisode, il se retrouve donc un peu dans les arcanes du pouvoir, sauf qu'il cherche toute la journée à acheter l'album d'un artiste qui s'appelle Zizio, qui est l'artiste à la mode à l'époque, sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'il est pris dans ses responsabilités, il n'arrive pas à acheter l'album pour sa nièce. Et à la fin de l'épisode, Zizio apparaît surgit d'une immense fausse pièce montée et interprète la chanson que l'on écoute tout de suite qui s'appelle Sama Sama.
Так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та це пануло мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію. Я до всього ревную, я від тебе балдію.
нами різниця, ми з тобою як ті, журавель і синиця. Я готовий тобі зірку з неба дістати, тільки дещо вночі не дає мені спати. Йой, тебе не любить моя мама. Воу-го-го, а ти для мене сама-сама.
Сама-сама.
Il est 13h51 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian.
S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection.
Salut tout le monde, c'est Brian. Salut tout le monde, c'est Brian, excusez-moi. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Je vous emmène dans un pays connu de par son nom, mais très peu des backpackers, le Bhoutan. J'ai choisi ce pays dont on entend peu parler, car il a été jusqu'à maintenant préservé de tout. Le Bhoutan n'a pas connu la révolution industrielle, ni les guerres mondiales, et encore moins la mondialisation. C'est une terre avec une culture vivante et riche. C'est pour cela qu'on l'appelle aujourd'hui le musée du monde. Il est béni avec des forêts verdoyantes et des montagnes qui abritent une large variété de faune et de flore. Le Bhoutan se situe au cœur de la haute chaîne montagneuse de l'Himalaya. C'est un pays enclavé par les montagnes. On retrouve au nord le Tibet et au sud l'Inde. Sa superficie est de 46 000 km². La forêt et les plaines inhabitées couvrent 70% de la superficie du Bhoutan. Sa population compte 2 millions d'habitants aux origines ethniques diverses, bhoutanais, népalais ou migrants d'autres régions autochtones. Le Bhoutan a une très grande richesse culturelle. Le bouddhisme est la religion dominante. Les 2000 temples bouddhistes présents partout dans le pays représentent son essence, même ancrée dans l'histoire. On entend peu parler du Bhoutan, et pour cause, il a adopté une politique isolationniste qui décourage les visiteurs d'entrer dans le pays durant une grande partie du XXe siècle. C'est seulement au début des années 70 que le pays est sorti de sa solitude et que le tourisme a débuté timidement. Le monde a pu alors apprécier la beauté de cette terre et de la culture de son peuple. Cette politique, mise en place par une succession de monarques, est toujours en vigueur. Pour entrer au Bhoutan, c'est très strict. Il faut d'abord choisir une agence de voyage, et c'est la seule option, car c'est une obligation pour les Occidentaux, puisqu'il est interdit de visiter le pays par ses propres moyens. L'agence de voyage sélectionnée se charge de l'obtention de visa, de l'organisation de votre vol et de l'achat de billets d'avion. Une fois l'agence choisie, il faudrait choisir l'un des programmes proposés. Généralement, les parcours se focalisent soit sur la découverte culturelle ou sur la randonnée. Vous l'aurez compris, il y a peu de liberté, mais c'est une belle préservation identitaire. En tout cas, pour ma part, ce sont ces restrictions et cette préservation qui me donnent envie de découvrir la richesse culturelle du peuple bhoutanais. Comme vous le savez, j'aime les lieux préservés du tourisme de masse et très proches de la nature. Malheureusement, je ne suis pas encore prêt à faire des concessions sur mon style de voyage. C'est pourquoi je ne pense pas visiter ce pays malgré mon affection pour lui. Peut-être que d'ici quelques années, la politique évoluera et permettra un accès très réglementé aux backpackers. Mais si cela arrive, le pays aura-t-il encore son charme? J'espère que mon coup de foudre pour le Bhoutan suscitera aussi votre intérêt. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans un mois pour une émission très spéciale.
Il est 13h57, vous êtes sur Prune et Coup de Foudre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Franck Gérard d'être venu nous rendre visite.
Merci à vous tous de m'avoir accueilli, c'était super.
Un grand plaisir, tu reviens quand tu veux l'année prochaine. Si on se refait Coup de Foudre, eh ben, on te réinvitera. C'est une promesse que je fais officiellement devant la France. Et merci à vous, auditrices, auditeurs, d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 4 juin pour la 8e et dernière édition de Coup de Foudre pour cette saison. On fera une émission spéciale pour l'occasion. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.
Coup de Foudre en intégralité en podcast sur prune.net.